La vente est-elle une manipulation? La vente d'un service ou d'un produit sous-entend qu'il faut convaincre l'acheteur potentiel d'acheter. C'est primaire. Un large panel s'offre alors aux équipes marketing. Les arguments, la confiance, les techniques de manipulation. J'ai décidé de parler de la vente pour terminer cette deuxième grande partie, car je me refuse de placer ce sujet dans le côté positif ou négatif de la manipulation. La vente est un but, et seules les intentions du vendeur peuvent être étiquetées comme positives ou négatives. Certaines marques souhaitent plus que vendre un simple produit. Elles veulent fidéliser le client pour des années, pour toujours. Un bon levier d'entrepreneur est d'avoir des clients qui reviennent régulièrement plutôt que d'essayer d'en attirer de nouveaux. Un bon client, c'est un client qui aime la marque, revient régulièrement et qui est tellement content qu'il en parle autour de lui en devenant un commercial malgré lui. Il n'y a qu'à lancer un discours dans une soirée entre amis sur quel équipement choisir entre un PC ou un Mac et vous allez assister à une envolée, un débat parfois houleux entre les adeptes de la fenêtre et les fidèles de la pomme. Il existe une relation quasi intime entre le consommateur et la marque qu'il utilise, la marque qu'il a choisie. Relation qui est renforcée par les biais cognitifs que nous venons de voir juste avant. Le marketing va chercher à manipuler les émotions pour accrocher votre attention et votre envie d'obtenir ce qui est présenté. Le plus logique serait qu'un produit présente simplement les caractéristiques précises de son produit et sa valeur ajoutée vis-à-vis de ses concurrents. Avez-vous déjà vu une telle publicité? Je me souviens du film « Mythomane », écrit, réalisé et interprété par Ricky Gervais, où le mensonge n'a pas encore été inventé par l'humanité. Le porte-parole de Coca-Cola Company fait une publicité qui dit « On n'a pas changé la recette depuis longtemps, donc je n'ai rien de nouveau à vous annoncer, si ce n'est qu'on a mis un ours sur la canette pour attirer les enfants. Bref, si vous en buvez, pensez à en racheter s'il vous plaît. » Voilà ce que donne une publicité qui n'utilise aucune technique de manipulation et que vous n'êtes pas prêt de voir sur vos écrans. Pour autant, les spots de publicité que vous voyez utilisent plus l'influence que la manipulation dure. C'est-à-dire qu'il est explicite que l'on cherche à vous convaincre. La démarche n'est pas cachée puisque c'est le propre d'une publicité. La manipulation, au mauvais sens du terme, étant de la faire soit en mentant, soit en essayant de rendre la démarche invisible, soit en faisant les deux en même temps. Voici les trois techniques les plus utilisées dans la vente. Je ne ferai pas de conclusions supplémentaires car vous les présenter est une forme de prévention de leur impact. Première technique, le storytelling. Le storytelling est sûrement l'une des techniques les plus prisées de ces dernières années. Il s'agit de raconter une histoire ou son histoire pour générer une empathie chez la personne qui écoute. Le storytelling permet aussi à l'autre de vous comprendre, voire de s'identifier à vous. Une forme de confiance quotidienne s'établit alors. C'est pourquoi certaines marques recherchent parfois l'histoire de leur créateur afin de la mettre en avant. Parfois même, elles vont trouver un moyen de s'approprier une histoire. Lorsque la société Pernod Ricard veut se lancer dans le whisky, elle fait une acquisition directement en Écosse, les installations Campbell. Pourquoi ? Pour pouvoir utiliser à loisir l'histoire du clan Campbell, qui commence au début du XIIIe siècle. Même méthode pour leur Scotch Ballantines, où on peut lire sur le site « Créé en 1827 par George Ballantine, un entrepreneur qui a suivi sa propre voie pour produire un whisky de la plus haute qualité. Produit en Écosse, berceau du whisky. » Vous imaginez bien que les actionnaires de Pernod Ricard n'étaient pas au courant de l'existence de ce bon vieux George avant de vouloir développer une acquisition stratégique pour une marque de scotch. Même un simple, Fabien Licard, mentaliste depuis 1982, serait un début de storytelling. On retrouve le storytelling partout où on a besoin de vendre de la confiance. En 2016, le président Barack Obama est au Vietnam, à Hanoï, pour renforcer les liens entre les deux pays, et surtout lever un embargo sur les armes. Il entame son discours par un résumé de sa découverte d'Hanoï, expliquant même ce qu'il a mangé le soir et comment il a trouvé son repas. Il le parsème d'anecdotes simples sur sa journée que tous les habitants reconnaissent comme des choses de leur quotidien. La connexion commence à s'établir. Il poursuit en parlant de son passé. Il se met à raconter l'enfance qu'il a passée à Hawaï, où il n'a connu que la paix, tout comme les personnes présentes à ce discours. Il les implique lentement en utilisant le pronom « nous » pour cimenter cette connexion. ce n'est plus lui qui fait un discours, mais bien un proche qui leur parle de son histoire. Quelqu'un qui a la même vie et le même passé que ceux qui écoutent. Quelqu'un que l'on comprend et qui les comprend. Une manœuvre politique très marketing. Deuxième technique, le cassage de prix. C'est le meilleur moyen de manipuler vos émotions et de vous donner le sentiment que vous allez réaliser une bonne affaire. Que vous le vouliez ou non, que vous en soyez conscient ou non, une grosse réduction aura toujours un effet sur vos émotions. Il est devenu courant que des sites proposent aujourd'hui des produits à moins 70%. Il s'agit souvent de sites internet créés pour l'occasion qui ne vendent qu'un seul produit. Ils utilisent ce que l'on appelle du dropshipping, tout à fait légal et pratique lorsque c'est bien fait. Malheureusement, les exemples dont je parle ternissent complètement ce système. Les vendeurs se procurent un produit bas de gamme de quelques euros, disons 2 euros pour l'exemple, l'affichent à un prix 30 fois plus cher sur leur site, donc 60 euros, et mettent en avant une énorme réduction, amenant le prix final à 15 euros. Vous avez donc le sentiment de faire une bonne affaire. L'iPad bradé. Ne vous dites pas que seuls des entrepreneurs du web peu scrupuleux utilisent cette technique. Lors du lancement du premier iPad par Steve Jobs, en janvier 2010, la conférence se termine avec l'annonce du prix de ce nouvel ovni d'Apple. Le prix de 999 $ s'affiche à l'écran. Il n'existe pas de produit similaire et la description technique qui a été faite semble cohérente avec un prix élevé. Mais Steve Jobs rappelle qu'ils veulent rendre leur produit accessible à tous. Et sur l'écran, un énorme 499 $ vient littéralement écraser le 999 $. Délire dans la salle, tout le monde a le sentiment d'avoir gagné 500 $. Parfois, les prix cassés sont associés à une durée limitée pour susciter le sentiment d'urgence. La précipitation n'étant pas toujours bonne conseillère, elle réveille vos schémas cognitifs de pensées automatiques. Troisième technique, ego et envie. Saviez-vous que la grande mode dans la publicité est le neuromarketing? Depuis toujours, la publicité et la vente sont friandes d'avancées scientifiques, au point qu'il est interdit d'utiliser du matériel médical à des fins de recherche en marketing. Le neuromarketing est le mariage final entre la science et la vente. On y étudie tous les leviers mentaux permettant d'influencer le comportement des potentiels clients. Les deux ressorts des employés dans le milieu de la vente sont de stimuler votre ego et, parfois en même temps, de stimuler l'envie que vous allez générer chez les autres. En psychologie, on peut englober les deux dans la catégorie « comparaison sociale », où vous avez besoin de vous rassurer sur votre statut vis-à-vis des autres. Et le produit vous promet de vous aider dans ce sens, même s'il s'agit d'un parfum, d'une voiture ou d'une paire d'écouteurs.